Bonjour à tous. Nous avons vraiment le plaisir aujourd'hui de recevoir Hélène Bonneau, psychanalyste à Paris, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse, dans le cadre du séminaire des échanges de l'Association de la cause freudienne en Aquitaine à la librairie Mola. Et nous remercions vivement la librairie Mola avec laquelle nous pouvons vous proposer ce séminaire des échanges. Autour de trois rencontres dont le titre général donné par Hélène Bonneau est le suivant, « Désordre et mystère de l'inconscient, les réponses de la psychanalyse ». Hélène Bonneau est l'autrice de plusieurs ouvrages disponibles ici dans la librairie Mola, « L'inconscient de l'enfant, du symptôme au désir de savoir », Le corps pris au mot, ce qu'il dit, ce qu'il veut, dont il y a une traduction en espagnol et également très récemment une traduction en japonais, et Monologue de l'attente, paru en 2019 chez Lattès. Donc sans plus attendre, nous allons converser dans un premier temps et ensuite nous donnerons la parole au public et à la salle, puisque nous avons désiré mener cet échange autour d'une conversation. Le titre que vous avez choisi pour cet ouvrage qui est paru en 2013, et le titre que vous avez choisi aujourd'hui, « L'enfant, son symptôme, sa famille », met en série l'enfant avec sa famille via le symptôme. Il nous dit déjà quelque chose de la psychanalyse et que la psychanalyse s'intéresse au premier chef à l'enfant. Dans votre ouvrage dont je viens de parler, vous dites précisément que la famille est un signifiant majeur de la psychanalyse. Peut-être qu'on pourrait commencer par là, notre conversation. L'enfant, la famille, d'ailleurs on y substitue aujourd'hui peut-être plus volontiers le terme de parentalité. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Freud, en son temps, avait également développé le thème du roman familial. Mais pouvons-nous dire en quoi la famille est encore un signifiant majeur de la psychanalyse ? Vous avez d'ailleurs comme hypothèse dans votre ouvrage que la famille contemporaine est un symptôme. Alors, que peut-on dire de ces points-là pour commencer notre conversation ?
Merci pour cette question. En effet, mon idée, quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était les questions que je me posais autour de l'enfant. Était évidemment celle du symptôme, puisque le symptôme est ce qui fait qu'on amène son enfant voir un psy, comme on le dit aujourd'hui. Et je me suis bien rendu compte que finalement, la famille est indispensable pour écouter un enfant. L'enfant s'inscrit dans son lien fondamental avec sa mère et avec son père, avec ses deux parents, d'une certaine façon, même si aujourd'hui, les choses ont beaucoup bougé et que l'idée du couple parental, qu'on appelle parentalité, mais couple parental, peut être évidemment... fondée par un couple d'homo ou un couple ou plusieurs. Enfin, moi, j'ai aussi connu des cas comme ça, où il y a plusieurs parents, quatre, parfois. Enfin, moi, j'ai connu cette expérience. Ou même maintenant, puisque les femmes seules peuvent avoir un bébé, maintenant, c'est parfaitement autorisé par la loi. Donc... ça pose d'autres problèmes, on en parlera peut-être plus tard. La question du couple parent-enfant, mère-enfant aussi, est une question aujourd'hui qu'on rencontre dans la clinique. Et l'analyste, d'ailleurs, peut devenir un parfait partenaire dans cette affaire de couple mère-enfant qui a été souhaité par une femme. Enfin, voilà, donc la famille, je dis, est un symptôme. C'est un symptôme au sens où c'est un symptôme de la psychanalyse. C'est un peu un jeu de mots parce que, oui. Bien entendu, que la psychanalyse, si on la prend comme sujet, en effet, la psychanalyse a un symptôme. C'est celui-là. C'est-à-dire que Freud a découvert, ça a été sa grande découverte, que les hystériques, finalement, au bout d'un moment, venaient à parler de leur expérience infantile. Et c'est comme ça qu'il a découvert la psychanalyse. C'est en écoutant les hystériques qui en venaient à parler de leurs souvenirs traumatiques et donc de papa et de maman, etc. Et Lacan n'a absolument pas démenti cette histoire. Au contraire, il dit que dès qu'on allonge, dès que quelqu'un s'allonge, au bout d'un moment, il va parler de son père et de sa mère et de, son histoire infantile, parce que tout commence là. Et dans le fond, un sujet ne commence à parler de lui, ne s'exprime qu'à partir du moment, ne s'exprime évidemment en tant que sujet. Et l'analyste le pousse à ça, c'est certain. Même l'idée même de venir parler à un analyste inclut cette idée qu'il va parler de lui, parce qu'on parle de soi quand on vient voir un analyste. Et donc, il va venir parler de sa famille, des conditions de sa naissance, de la façon dont il a été enfant, les obstacles qu'il a rencontrés, les difficultés qu'il a eues à l'école. Enfin, voilà, ça ouvre en effet la question de qui j'étais avant d'être celui que je suis devenu.
Oui, c'est ce que vous dites. La famille n'est pas un concept vide. Voilà. On s'en rend compte, effectivement, quand quelqu'un vient voir un analyste, que ce n'est pas un concept vide. Alors, qu'est-ce que ça pourrait dire, de l'enfant et de sa famille?
Eh bien, justement, j'allais y venir. L'enfant, évidemment, il ne fait pas la demande lui-même. Ou alors, il faut attendre l'adolescence pour que ça puisse se produire. Et donc, aucun enfant ne frappe à la porte du psychanalyste sans l'accompagnement des parents. Et évidemment, dans les institutions, c'est un peu différent. Mais là, d'une façon générale, dans la demande qui est faite, l'enfant, dans la mesure où il est soumis au désir parental, n'a accès au psychanalyste que si les parents le décident et font cette démarche. Évidemment, dans les institutions, et mon livre, finalement, et mon expérience dans un CMPP de Paris, où j'ai travaillé plus de 35 ans, explique un peu cette démarche quand elle est faite dans une institution, c'est très différent. Parce que dans une institution, on est plusieurs à recevoir l'enfant, il y a plusieurs personnes pour s'engager dans une prise en charge, etc., etc. Et pour réfléchir aussi, d'ailleurs. Tandis que quand on est seul avec une famille qui débarque chez vous en tant qu'analyste, bien sûr qu'il faut, il faut se préparer à entendre à la fois l'enfant et ses parents, puisque finalement c'est eux qui vont nouer avec vous un lien suffisamment fort, suffisamment en tous les cas de confiance. J'insiste beaucoup sur ce terme de confiance. Il faut la confiance pour pouvoir s'engager dans un travail, que ce soit pour l'adulte ou pour l'enfant. Et l'enfant, ça passe aussi par la confiance des parents. Et donc, voilà, et recevoir finalement ce que les parents disent de leur enfant. Et ça, c'est extrêmement important. De pouvoir entendre ce que les parents vont vous dire, l'un après l'autre, ou l'un sans l'autre, parce que tout est possible, de leur enfant, et que l'enfant soit là pour l'entendre. Parce que peut-être c'est la première fois, certains enfants, c'est la première fois qu'ils vont découvrir qu'ils ont une histoire. Et cette découverte qu'on a une histoire, elle est parfois ce moment absolument incroyable où, par une question de l'analyste, un parent va s'engouffrer à raconter la façon dont l'enfant est né, la façon dont ça a été horrible, la façon dont il n'était pas préparé, la façon dont ça s'est mal passé parce qu'il y avait un décès dans la famille, parce que le père a perdu sa mère. Enfin bon, voilà, tout le pathos, ce qu'on appelle le pathos, dont on ne veut plus entendre parler aujourd'hui, parce que justement, on voudrait que tout le monde soit complètement clean et ne plus avoir de passé, ne plus avoir d'histoire. On voudrait des sujets sans histoire. Alors évidemment, pour le coup, aujourd'hui, justement, c'est extrêmement important de recevoir les parents et d'entendre un peu de quoi ça parle.
Oui, d'autant que ces histoires marquent l'enfant. Ces paroles, celles qu'on a pu lui dire ou qu'on ne lui a pas dites, marquent l'enfant.
Absolument. Alors, certes, les paroles, on le sait, dans la psychanalyse, les paroles ne sont jamais prises comme des mots qui comptent pas. Toute parole compte dans la psychanalyse. Et en effet, parfois et même souvent, on va découvrir les signifiants, si on parle de signifiants, qui ont pu marquer un enfant. Je me rappelle d'un petit garçon que je recevais il y a de cela très longtemps en institution, et il était très triste et très malheureux, et au bout d'un moment il m'a expliqué que il se trouvait très laid, et je me suis étonnée de cette parole, et il m'a expliqué que bien sûr il était laid, il le savait, parce que depuis qu'il est né, sa mère lui avait dit qu'elle avait été choquée par sa laideur dès le moment de sa naissance, et qu'elle avait reconnu dans sa laideur de nourrisson, enfin d'enfant nouveau-né, c'est même pas nourrisson, c'est un nouveau-né, elle avait reconnu le trait de laideur du grand-père paternel. Et elle avait eu véritablement un rejet. Après, j'ai vu la mère, elle me l'a dit. Elle a eu un rejet de cet enfant, qui aujourd'hui est son enfant préféré, bien entendu. Mais, enfin, je dis bien entendu, parce qu'en effet, un enfant n'est pas qu'un défaut du corps, ou même pas un défaut, enfin je veux dire, enfin en tous les cas, un trait du corps, il en a fait quelque chose d'autre, ce petit garçon. Mais lui, il était convaincu de sa laideur. Et donc, ça avait eu comme conséquence qu'il se sentait mal, qu'il était authentiquement déprimé, et qu'il répétait ce rejet dans sa vie affective avec les petits autres, ses camarades, etc., etc. Alors, il y avait évidemment une part qui était certainement d'une marque sur le corps. Mais lui, il était convaincu, et voilà, le travail analytique a permis un petit peu de lever ça. Il était convaincu, parce que sa mère faisait des dépressions de façon chronique, il était absolument convaincu que si sa mère allait mal, c'était à cause de lui et à cause du fait qu'il n'avait pas été l'enfant idéal qu'elle attendait, le bel enfant qu'elle attendait.
Oui, ce que vous voulez dire, que l'enfant est pris dans le désir d'un autre, soit sa mère, sa famille, que c'est à partir de là que son histoire se noue pour lui aussi.
Tout à fait. Quand Lacan dit que l'enfant est pris dans le désir de l'autre, on le voit là de façon absolument évidente. Mais de toute façon, quelles que soient les circonstances de la vie, le sujet, l'enfant et l'adulte, toute sa vie, on est quand même pris dans le désir de l'autre. Et c'est vrai qu'une analyse vous permet au moins de repérer de quoi ça parle, ce désir de l'autre, de quoi il a été fait, de quoi il a été, dans quoi vous vous êtes pris les pieds, dans quoi comment s'est constitué finalement votre névrose infantile. Et Lacan ira beaucoup plus loin parce que il va dire que l'enfant est parlé par l'autre bien avant la naissance. J'en fais d'ailleurs la phrase qui débute mon livre, parce que c'est une très belle phrase où Lacan parle du hamac du langage, comment l'enfant est pris dans le hamac du langage et comment finalement ce désir de l'autre à la fois le fait vivre et en même temps l'emprisonne. Et c'est une très très belle phrase de Lacan parce qu'en effet, bien sûr, la vie est une jouissance que l'on donne à l'enfant en le nommant, enfin, dès le début de la vie. Et en même temps, il y a quelque chose de l'emprisonnement qui se noue comme ça, parce que un enfant, on ne sait pas ce que c'est aussi. Ça aussi, c'est extrêmement important. Il nous échappe. On croit qu'il va répondre à tout, qu'il va venir combler finalement le manque à être maternel, notamment. Beaucoup d'enfants viennent à cette place d'être désirés parce qu'ils vont venir combler ce manque à être. Et finalement, une mère, enfin, ou un parent, évidemment, va réaliser que non, ça n'est pas tout à fait cet accomplissement de désir ne règle pas finalement la question de son manque à être. Ça va être plus difficile qu'elle ne l'imaginait, ça va être plus inconnu, plus angoissant, parce que finalement. La clinique montre que la rencontre avec l'enfant crée évidemment une certaine joie absolument insoupçonnable, mais très vite peut créer beaucoup d'angoisse. Parce que l'enfant, le nourrisson, on ne comprend pas ce qu'il veut, on ne comprend pas toujours ce qu'il demande, on ne comprend pas pourquoi il pleure. Et tous ces phénomènes de corps aussi qu'il agite, donne souvent l'idée aux parents qu'ils ont affaire à quelque chose qui les dépasse.
Parfois même, là, nous avons travaillé cette conversation avec Morgane Léger, qui est psychologue et qui ne peut pas être là, et qui, sur ce point, vous pose une question. C'est lorsque l'enfant, dit-elle, et c'est, je crois, les termes qui sont employés dans la préface de votre ouvrage par Jacques-Alain Miller, est enseveli sous un signifiant qui l'accable. Parce qu'il y a des situations, il y a évidemment la façon dont chacun a affaire avec les signifiants de sa famille, le désir de l'autre, mais il y a des moments où les choses se passent beaucoup plus mal et où l'enfant peut vraiment se sentir enseveli sous un signifiant et accablé avec une défense qui se cristallise pour lui. Alors, comment peut agir le psychanalyste ou dans cette situation-là, par exemple? Est-ce que vous auriez...
Il faut déjà le trouver, le signifiant qui accable. Mmh. Déjà, ça n'est pas forcément lisible d'emblée. Si l'enfant est enseveli sous les signifiants, et sous un signifiant qui l'accable, il faut déjà le détecter. Et donc, c'est ça le travail. Et c'est très important que le psychanalyste d'enfant le sache. On va à la recherche d'un signifiant qui accable ou qui qui dérange, enfin, parce que bon, il y a l'accablement, c'est très fort, mais il y a le dérangement, mm-hmm. où il y a la mauvaise interprétation que l'enfant en fait aussi. Ça existe, ça. L'idée que un enfant se trompe, l'enfant peut se tromper, enfin, à la fois. L'enfant ne se trompe pas puisque les signifiants ne le trompent pas, mais en même temps il peut interpréter. Il y a une clinique de l'interprétation chez l'enfant qui est tout à fait intéressante parce que justement elle n'est pas forcément. Enfin, parfois il s'agit d'un malentendu. Signifiant,
oui.
justement, sur une phrase qu'un parent aurait dite et qui lui restait fixée comme quelque chose qui le désigne ou qui l'identifie comme tel, et qui sont des choses finalement assez anodines, enfin qui peuvent paraître à l'adulte extrêmement anodines. Je sais pas moi, tu as les cheveux comme ci, ou tu as la peau comme ça, ou tu as des boutons, mais c'est rien. Des petites phrases de la vie quotidienne peuvent en effet avoir un impact qu'on ignore sur l'enfant. Et parfois, il suffit très rapidement hein, de remettre les choses en perspective, de rétablir le sens que le parent voulait mettre pour que la question se fluidifie.
Oui.
Voilà, il y a quelque chose d'assez génial dans la psychanalyse d'enfants, c'est ça, c'est que les choses ne sont pas complètement forcément nouées d'une telle façon que le nœud soit inextricable, mais les choses peuvent se dénouer assez facilement parfois. Mmh. Parfois non, évidemment.
Oui.
Mais dans ces cas-là, c'est que les symptômes sont beaucoup plus ravageants et beaucoup plus opaques aussi pour les parents. Tant qu'un parent peut en quelque sorte aussi interpréter le symptôme de son enfant, on est dans une question où la question du savoir domine.
Oui. Oui, ça c'est un point important en effet, cette question
voilà.
de savoir.
Et quand ils n'y comprennent rien, quand ils ont le sentiment que leur enfant leur échappe, mais qu'il est un étranger pour eux, ou qu'il fonctionne d'une façon telle qu'ils ne comprennent rien à ce fonctionnement, à ce moment-là, évidemment, il y a quelque chose. Il faut beaucoup aider les parents à se réapproprier leur enfant. Ça me paraît essentiel. Et parfois, quand les parents viennent avec un adolescent qu'ils ne comprennent plus ou qu'ils ne supportent plus ou dont la violence les ravages, etc., qu'ils essayent tout ce qu'ils peuvent et que rien ne marche, etc., et qui vous font comme ça un tableau assez terrible de cet enfant-là, c'est à ce moment-là que l'analyste, il a le choix. Soit il décide de faire taire les parents et de les mettre de côté, et de s'intéresser que à l'enfant, avec le risque qu'il prend, que l'enfant l'envoie promener parce que il a entendu tous ses défauts et tous ses reproches. Soit il essaie de partir des reproches et il essaye de faire entendre à l'enfant que derrière les reproches, il y a peut-être quelque chose qui le concerne et qu'il va pouvoir s'en saisir et essayer d'en faire lui quelque chose. Voilà. Parfois, ça m'est arrivé que ce qui était dit par les parents était tellement négatif, insupportable à entendre, où le rejet était vraiment la colère et le rejet étaient tellement forts qu'il était important de ne pas laisser les parents là-dessus. Ça aussi, c'est quelque chose que, voilà, que la clinique nous enseigne. C'est-à-dire ne pas laisser les parents totalement sortir d'un entretien avec le sentiment peut-être qu'ils se sont déversés de leur colère et de leur rejet sans qu'on leur renvoie quelque chose de positif sur leur sur ce qu'ils sont finalement, sans qu'on leur dise ah ben oui ça doit être terrible ce que vous vivez ou je sais pas, enfin, des phrases absolument banales mais qui accueillent quand même la douleur parentale. C'est une douleur d'avoir un enfant qui va mal, c'est une grande douleur. Et on a beaucoup culpabilisé la psychanalyse en disant que la psychanalyse culpabilisait les parents, ce qui est une belle tautologie, parce que en réalité, c'est les parents se sentent coupables quand ça ne va pas bien, quand leur enfant va mal. Ils se sentent coupables, ils s'interrogent, comme tout sujet s'interroge, sur ce qui va pas ou ce qu'il n'a pas fait, combien de mères aujourd'hui, parce que justement, là, il n'y a plus cette opportunité à venir parler facilement de ce qui ne va pas. Parce qu'il y a une telle idéalisation de la parentalité, une telle idée finalement que que l'enfant doit être heureux. Il y a une telle idéalisation du bonheur dans notre culture et dans nos démocraties, évidemment, c'est pas dans le monde entier, hein, loin de là, qu'en effet, très vite, la culpabilité affleure dès que votre enfant commence à manifester des choses inattendues, soit des insomnies, du pipi au lit, du mauvais travail, enfin, je sais pas, tout est possible. Et parfois, le malaise n'est pas lisible par les parents, mais leur fait retour par l'institution qu'est l'école.
Alors, vous parliez de cette pression qu'ont les parents, peut-être aujourd'hui plus que jamais, d'autant qu'avoir un enfant est un choix. Aujourd'hui, et donc quelles sont les incidences? Est-ce qu'il y a ce fait de pouvoir choisir d'avoir ou de pas avoir un enfant pour une mère et même pour un père? Diriez-vous que la place de l'enfant dans la famille s'est modifiée? Par exemple, vous parlez de fantasmes de complétude à partir de l'enfant dans sa famille. Est-ce que vous pourriez développer ces points?
Oui, l'enfant autrefois. L'enfant était inscrit d'emblée comme un accident, comme quelque chose qui pouvait arriver chaque mois finalement pour les femmes. C'était une obsession, c'était l'obsession de tomber enceinte. Enfin bon, voilà, c'est pas si vieux que ça. Mais donc ça donnait à l'enfant un statut très particulier. Oui. Il fallait vraiment l'adopter au sens où on adoptait vraiment le désir de l'avoir. Il fallait faire cette opération. Aujourd'hui, on considère que on a les enfants qu'on veut depuis mai 68, ce qui est évidemment une révolution dans la façon de fantasmer l'existence même d'un enfant dès lors que on sait qu'on le veut, on sait qu'on le décide et qu'on l'attend avec tout l'amour et tout le bonheur du monde. Alors, on voit bien d'ailleurs aujourd'hui que ce bonheur du monde étant un petit peu effracté par les problèmes de pollution, de climat et aujourd'hui de guerre, qui angoissent beaucoup les jeunes. Et c'est normal, enfin, je trouve pas ça complètement à côté de la plaque, évidemment. Donne une connotation parfois mélancolique à cette question du désir d'enfant, c'est-à-dire que dans le fond, aujourd'hui, certaines personnes, certains pères, enfin certains hommes, certaines femmes disent très clairement ne pas vouloir enfanter comme un choix décidé de ne pas avoir. Alors là, c'est intéressant parce que justement, ça vient en contrepoint du choix des générations précédentes qui ont dit on a les enfants qu'on veut. Et en effet, on a eu les enfants qu'on veut. Et aujourd'hui, les choses font que ça se déplace et que d'une certaine façon, on entend beaucoup plus ce thème de ne pas vouloir enfanter, ne pas vouloir d'enfant comme un choix décidé et qui s'énonce. Mmh. Parce que franchement, je pense qu'il y a quelques dizaines d'années, ça aurait pas été trop entendable qu'on puisse envisager comme cela d'affirmer un refus d'enfant. Donc oui, l'enfant d'aujourd'hui est un enfant dont on dit qu'il a été désiré au sens où il a été programmé, tout simplement. Mais bon, parfois...
Oui, vouloir et désirer un enfant, c'est pas la même chose.
Vouloir et désirer, c'est pas la même chose. Le désir est quelque chose qui n'est pas tellement représentable en réalité, en tous les cas, qui passe par des voies secrètes ou des choses secrètes qu'on ne peut vraiment appréhender que lorsqu'on fait une analyse. Parce que la place de l'enfant dépend aussi de la place que soi-même on a eue dans le désir de l'autre. Elle dépend aussi de la place de l'enfant. C'est mon deuxième, c'est mon troisième, c'est mon premier. Tout ça est très complexe et voilà, a des effets sur la façon dont on va être en tant que mère ou en tant que père avec son enfant.
Oui, il y a un moment de séparation à vivre pour la mère dans la naissance de son enfant aussi, qui peut être vécu de bien des manières également.
Oui, alors c'est vrai que il y a tout le processus de la grossesse pour s'apprivoiser à devenir parent, aussi bien pour le futur papa que pour la future maman. Parfois, c'est des moments qui sont pas si simples que ça à vivre, mais au moment de la naissance, il y a ce phénomène qui fait que l'enfant, une fois qu'il est arrivé, il peut être, comme dans le cas dont je parlais tout à l'heure, oui. pas bien accepté. Il peut aussi être douloureux psychiquement pour une femme de cette opération de séparation que constitue la naissance. Hein, d'un seul coup, il était dans mon ventre, c'était un véritable objet qui m'accaparait entièrement, j'étais entièrement prise par ça, et maintenant il est là. Vraiment, le sentiment d'avoir accouché d'un objet séparé de soi peut parfois produire des effets qu'on ne comprend pas. On voit certaines mères ne pas pouvoir tenir leur bébé, être angoissées à l'idée de le nourrir. D'un seul coup, toute une succession d'angoisses apparaissent, de l'incapacité à pouvoir être la mère de cet enfant, jusqu'à décider que c'est pas possible, qu'il faut que un tiers intervienne pour que cet enfant intervienne, pour que la mère se fasse à cette idée, etc. Il y a vraiment une clinique très très intéressante de la naissance et autour de la naissance, et pourquoi ça reste quand même aujourd'hui, un moment si important dans la vie d'une femme, d'un homme, évidemment, maintenant, et de l'enfant en question, évidemment.
Alors, sur ce point, Morgane Léger soumet également une question en disant que dans votre ouvrage, vous avez cette phrase « L'idéal vient se cogner au réel de ce qu'est un bébé ». Et l'enfant désiré, l'enfant par choix, ne vient pas annuler cette dimension. Certainement, bien, c'est bien le contraire. Et vous ajoutez que l'enfant, qui s'avère être pour ses parents parfois un objet de consommation, de jouissance. Alors, il y a de quoi être angoissé, évidemment. Et au fond, l'enfant roi, ce terme d'enfant roi qui avait été utilisé déjà par Freud, est-il un enfant angoissé, celui qu'on peut rencontrer parfois, cet enfant roi?
Sans doute. En tous les cas, la phrase selon laquelle l'idéal de l'enfant vient se heurter au réel qu'est un enfant, c'est dans le sens où l'enfant idéal, il est sublimé dans la tête de la mère ou du père. Quand il est là réellement, il doit être habité par toute une fantasmagorie des parents, mais parfois il peut être ressenti comme un pur objet vide ou vidé de sens. Ça, c'est une expérience évidemment que seule la psychanalyse peut en parler, parce qu'en effet l'idée de que un petit enfant qui vient d'arriver est peut-être ressenti comme vide de sens pour une mère, pour un père, mais surtout pour la mère, est une expérience atroce, mais atroce au sens d'une douleur indicible. Et dans le fond, ça peut durer 2 jours,
oui,
comme ça peut durer plus. Mais même quand ça a duré 2 jours, ça aura eu le temps d'avoir un effet sur le petit enfant. Donc, je ne sais plus la question. C'était pour dire le réel. Qu'est-ce que c'est ?
Voilà.
Le réel du corps du bébé.
D'un autre côté, cet enfant, un peu de consommation, enfin, c'est un parent, pour l'enfant, un objet de consommation, un bien, en quelque sorte.
Oui, c'est de ça. Évidemment, c'est assez péjoratif de voir les choses sur ce plan-là, mais en même temps, tel qu'on en parle parfois aujourd'hui dans certains médias, enfin dans les journaux ou quoi, on a l'impression que voilà, l'enfant est un bien de consommation dans le sens où on veut l'avoir, on veut le posséder, on veut en posséder comme on voudrait, je sais pas, un objet précieux, un bijou ou quelque chose qui est fantasmatiquement évidemment cher, chéri et attendu. C'est l'objet de consommation aussi dans le sens où on va le traiter, oui, comme tel.
Oui.
C'est-à-dire que on va vouloir à sa place, je ne sais pas, qu'il est le dernier objet à la mode, le dernier truc dont évidemment toute la publicité se sert pour vous faire savoir que il doit avoir telle ou telle chose pour être bien équipé, etc. Et aujourd'hui aussi, il y a un thème qui revient souvent dans la clinique parentale. Hein. C'est le partage de l'enfant.
Oui.
Voilà. Mm-hmm. Et c'est là qu'on voit le mieux le côté objet. Je dis pas de consommation, mais objet de l'enfant. Quel enfant pour le couple. Évidemment, ça apparaît de façon le plus manifeste quand les parents se séparent, puisque il y a l'idéologie d'aujourd'hui, c'est le partage de tout. c'est on doit partager en tant que parent, évidemment, je ne parle pas d'autre chose. On doit partager l'enfant équitablement, puisque on est les deux parents, et donc il faut que l'enfant soit partagé entre nous deux équitablement. Voilà, et bien ça dit quoi finalement? Ça dit que l'enfant est un bien commun, et sous ce registre, sous ce signifiant de parentalité, on a gommé ce que c'est un homme et une femme. Les liens qui existent entre un homme et une femme sont totalement effacés au profit de l'idéologie de la parentalité. Donc c'est vraiment l'enfant. L'enfant déjà crée la famille, fait la famille, mais en plus de ça, il maintient, il a une responsabilité absolument folle, il maintient les parents entre eux. Il les fait exister, puisqu'on n'existe plus, oui. On existe beaucoup plus comme parents que comme couple conjugal. D'ailleurs, le mot conjugal que Lacan employait, parler de la famille conjugale, eh bien maintenant, ce signifiant a disparu. On ne parle plus du couple conjugal, on parle du couple parental. C'est pour ça que, à entendre comme ça, ça dit bien qu'en effet, le couple conjugal a disparu au profit du couple parental. Alors, c'est bien parce que on peut considérer que les enfants, autrefois, étaient bien davantage mal aimés, rejetés, devenaient dérangeants, etc. Et on les confiait à droite, à gauche, aux grands-parents, ou à ceci, à cela. Alors qu'aujourd'hui, on le voit beaucoup moins, ça. Ça a existé beaucoup, ça. Quand on lit de la littérature du 19e et du 20e siècle, on voit bien que c'était très fréquent que les parents laissent leur enfant à droite, à gauche, etc., dans les internats, enfin bon, bref. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins flagrant. Aujourd'hui, il y a un vrai souci pour être des bons parents. Voilà. Et donc, cette histoire de partage me faisait sourire, parce que parfois, dans la clinique, avec les adultes, on entend dire que les jeunes parents veulent absolument être équitables, se partager l'enfant d'une telle façon, chacun a sa nuit, chacun a son devoir envers lui, mais qu'en même temps, on a l'impression que ça n'est qu'une succession de moments individuels passés avec l'enfant, mais qu'il n'y a plus la notion de passer du temps ensemble, de se partager en tant que couple, un moment avec l'enfant, tellement tout doit être équitablement partagé. Et ça aussi, ça a des incidences, bien sûr, sur l'enfant. Ça a des incidences dans le sens où il y a cette égalité, ce fantasme d'égalitarisme. C'est pas l'égalité, ça n'est pas possible. Ce fantasme d'égalitarisme fait qu'il y a de plus en plus une indifférenciation des fonctions père et des fonctions mère, qui font que aujourd'hui tout est très mouvant dans les fonctions père et les fonctions mère. C'est-à-dire que bon, autrefois la mère est celle qui nourrit, celle qui prend soin, celle qui, enfin voilà, s'occupe du petit bébé. Le père venant un peu plus tard, faire guili-guili, faire sauter le bébé, etc., jouer avec lui. Mais enfin, c'est pas lui qui donnait le bain, c'est pas lui qui préparait les biberons, c'est pas lui qui se levait la nuit. Enfin, ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, les pères sont devenus des mamans bis. C'est tout ça. Donc, c'est formidable. C'est une très bonne chose, mais ça n'exclut pas la question de la rivalité entre les parents. Ça l'exacerbe, au contraire. Oui. Et c'est ça qui fait que beaucoup de couples se séparent et se divisent, parce que dans le fond, ils se reconnaissent plus dans leur fonction. Ils n'ont plus de repères dans le fonctionnement qu'ils ont inventé, mais que la société quand même pousse à faire exister. Parce que dans le fond, pour un jeune père d'aujourd'hui, il faut inventer en effet sa façon d'être père. Et pas être soumis au vouloir de sa femme.
J'avais envie de vous poser une question sur... finalement, on a parlé des médias, et c'est vrai que les médias rapportent aujourd'hui tous les dysfonctionnements possibles et inimaginables de la famille, des parents, entre les parents toxiques, défaillants, démissionnaires, enfants agités, violents, hyperactifs, etc. Or, ce qui cloche ou ce qui fait souffrir l'enfant s'apparente aujourd'hui, peut-être plus fortement qu'autrefois, vous nous direz, un trouble à évaluer, un diagnostic à faire, et dont il faudrait modifier ce trouble. Or, la psychanalyse aborde très différemment la façon de ce qui peut troubler un sujet, à partir de l'autre scène dont vous avez un petit peu parlé, celle de l'inconscient. Donc, parler de l'enfant, c'est parler de son symptôme. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce point, et qu'est-ce que c'est qu'un symptôme?
Le symptôme, c'est un dire. Le symptôme, c'est une parole. Le symptôme, c'est la manifestation de quelque chose qui dérange, qui vient déranger le sujet comme le parent. Enfin, le problème, justement, dans la psychanalyse d'enfant, c'est que ce qui dérange l'enfant n'est pas forcément ce qui dérange le parent, et que toute la question, c'est justement d'aider l'enfant à subjectiver que quand il fait sa crise, comme on dit par exemple, c'est un dérangement pour sa famille, pour ses parents, mais qu'il en est lui aussi responsable. Et donc de lui faire apercevoir qu'est-ce qui est en jeu pour lui dans sa façon de faire des crises ou des caprices, etc. etc. Bon, ça c'est pour parler du symptôme, mais aujourd'hui nous avons affaire à la fin de la clinique, dans le monde dans lequel nous évoluons, le monde scientiste et qui est repris de plus en plus de façon médiatisée par la télé, par les journaux, par tout le monde, c'est l'idée centrale quand même, c'est que l'enfant a un cerveau et que ce cerveau est ce qui déclenche le symptôme. Voilà, un dysfonctionnement du cerveau crée un symptôme. Donc il n'y a plus du tout l'idée d'une causalité psychique, il n'y a plus du tout l'idée qu'il y a un trauma quelque part, il y a l'idée d'un dysfonctionnement du cerveau. Et évidemment, ça va très loin, parce que certes, ça peut déculpabiliser les parents, dans le sens où j'y suis pour rien, mon enfant dysfonctionne, c'est son cerveau. Mais le parent va se sentir tout aussi responsable du dysfonctionnement du cerveau de son enfant. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter avec la culpabilité. Et s'il n'y a pas la culpabilité, c'est pire. Parce que d'une certaine façon, c'est pire parce que si vous avez un enfant qui a des problèmes graves et dont le cerveau dysfonctionnerait, vous avez à ce moment-là le sentiment que vous êtes totalement impuissant face à ça, et vous demandez à la science de réparer l'irréparable, et la réponse va être médicamenteuse, parce que malheureusement, nous n'avons pas accès au cerveau. Les thérapeutiques d'aujourd'hui... On peut faire ce qu'on veut avec les scanners, les IRM, je ne sais pas quoi. Mais pour remédier aux symptômes, la réponse est toujours la même, c'est le médicament. Et le médicament n'a pas toujours son efficacité dans les pathologies qui sont aujourd'hui mises en jeu, comme ce qu'on appelle les troubles de l'attention,
TDAH.
Les troubles de
tous les 10 possibles.
Ouais, tous les 10. Mm-hmm. Vous voyez, j'arrive même plus à.
La liste est longue.
Il y en a tellement.
La liste est
j'arrive
très longue.
Même plus à les nommer. Bon, alors, c'est terrible, mais on constate quand même les effets négatifs de cette approche.
Alors, la psychanalyse procède très différemment.
Alors, la psychanalyse n'est pas une magie non plus. Elle n'a pas le pouvoir qu'à la science, d'une certaine façon, ou que la science croit avoir. La psychanalyse, elle est... La seule chose qu'on peut dire, c'est que la psychanalyse, elle est respectueuse du symptôme. Et à partir du moment où vous avez cette éthique d'être respectueuse du symptôme, eh bien, les choses s'ouvrent. Mmh. Voilà. C'est-à-dire qu'on donne au moins au sujet, qu'il soit agité ou pas, qu'il soit triste ou pas, que son agitation veuille dire qu'il va très très mal parce que justement, il n'est pas connecté à l'autre, ce qu'on appelle une déconnexion du rapport à l'autre, c'est-à-dire que il vit sans le sentiment d'avoir un corps. Ça existe aussi, toutes ces pathologies. Mais vous voyez, quand je dis il a pas le sentiment d'avoir un corps, ben je dis pas un diagnostic, je dis quelque chose qui parle à chacun. Je dis un symptôme qui peut s'appréhender. Ça n'est pas le TDAH ou je sais pas quoi là où on ne comprend même pas de quoi ça parle. Ça y est, je vais m'exciter, je vais m'énerver. Mais non, parce que c'est très compliqué tout ça, parce que ça a un impact effrayant. Et en même temps, les gens sont séduits par tout ce qui est neuro, par ce discours neuro, parce qu'il est nouveau, parce que la psychanalyse, c'est vrai, elle est vieille. C'est un peu la vieille dame de l'affaire. Mais en même temps, les choses font que un sujet a une histoire, un sujet a un symptôme, des symptômes, et parfois des symptômes qui sont extrêmement complexes, qu'aucune image du cerveau ne pourra rendre lisible. La psychanalyse, elle va pas rendre tout lisible, c'est impossible. Et ça, elle le sait. Justement, il y a une partie de chacun qui est absolument impossible à déchiffrer. À partir du moment où on aborde cette question, on sait que tout ne se comprend pas, tout ne peut pas se lire, tout ne peut pas se savoir. Il y a une part impossible à décider, c'est le choix du sujet, qui fait lui-même comme il peut. Et les parents font comme ils peuvent, et chacun dans cette affaire fait comme il peut. Il n'y a pas de volonté d'être mauvais, il n'y a pas de volonté d'un... Il y a des fonctionnements différents. Donc, la psychanalyse, elle prend au sérieux les faits qui obligent, en effet, à entendre là où ça dérape, où ça... Elle va essayer de retrouver, de rechercher à quel moment, quel a été l'événement déclencheur du malaise ou du trouble ou du délire. Les enfants aussi délirent, ce qui est absolument méconnu par la psychiatrie d'aujourd'hui. Les enfants ont des voix, ils entendent des choses qui leur disent de faire ceci ou cela, ou d'aller faire ceci ou cela. Les enfants ont des grandes angoisses. Ça aussi, c'est totalement méconnu par la psychiatrie d'aujourd'hui. L'angoisse d'un enfant, mais elle est terrible. Elle peut être absolument invalidante. Donc la peur de l'autre, tout ça, même quand on dit qu'il est timide et qu'il est ceci, cela, mais non, c'est parfois la timidité cache bien quelque chose de bien plus difficile. Voilà, donc oui, c'est évidemment c'est compliqué.
J'avais également une question sur un terme qui m'a interpellée dans votre. À la fin de votre livre, vous parlez de l'autre vital, à l'époque justement de l'individu, de l'un. L'enfant est un individu comme les autres, sans doute, qui peut se trouver seul. Or, on a vu que le symptôme était un appel à l'autre. Donc, qu'est-ce que cela change dans l'accueil de l'enfant et de sa famille aujourd'hui ?
Oui, dans la mesure où, en effet, on est dans une époque où l'individu, la notion d'individu, de un tout seul, comme le dit Jacqueline Miller, est extrêmement forte. On le voit d'ailleurs dans le fait que, justement, pour se faire exister, on a besoin de se nommer, de s'auto-nommer, d'essayer de se trouver des nominations qui conviennent à l'autre de l'époque. Je suis trans, je suis pas née dans le bon corps, etc. Tous ces événements qui sont nouveaux. Dans la mesure où ils sont pas nouveaux au sens de la clinique, ils existaient déjà avant, mais ils sont nouveaux dans le sens de l'apparition de plus en plus d'adolescents qui en font la démonstration, qui le revendiquent, etc., et qui cherchent surtout à se retrouver sous un signifiant maître, comme nous disons. Un signifiant maître, c'est le mot, par exemple, trans est un signifiant maître, au sens où dire je suis trans, ça vous donne beaucoup d'être aujourd'hui. Avant, c'était honteux, on se cachait de ces symptômes, surtout au niveau du choix sexuel. Les homosexuels se cachaient. La sexualité elle-même était cachée déjà. Elle a beaucoup changé parce qu'elle s'est ouverte. Et on a parlé des choses sexuelles de façon beaucoup plus ouverte, beaucoup plus acceptée, etc., etc. Mais, et donc, il y a eu une évolution vers la possibilité de dire... ce qu'on est, voilà. Dire ce qu'on est, c'est-à-dire, c'est dire son orientation sexuelle, c'est l'afficher. Et maintenant, nous en sommes en fait à un nouveau phénomène qui est celui des identités. Les identités se multiplient et deviennent de plus en plus, personnelles, personnalisées, etc., etc. Alors, évidemment, ça crée chez l'enfant ça crée chez les adolescents surtout une forme de gouffre, parce qu'il y a une telle multiplicité des choix, une telle ouverture. Avant, on était un homme ou une femme. Bon, ben alors, avec ça, il fallait s'arranger. Maintenant, il y a une telle multitude des choix que pour certains, c'est un gouffre, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est très angoissant. Et c'est, tant que vous n'avez pas eu d'expérience avec la sexualité, c'est évidemment, c'est un gouffre, c'est très difficile à imaginer. Donc, pour certains qui sont très fragiles, l'idée de venir s'autonommer comme n'étant pas dans le bon corps, etc., etc., leur ouvre des perspectives qui leur donnent le sentiment qu'ils existent, que leur différence, finalement, est comprise par un groupe qu'ils vont rechercher sur Internet, etc., et où il y a tout un discours qui leur donne la marche à suivre. Voilà, à partir du moment où tu te sens pas bien dans ton corps, peut-être que tu n'es pas dans le bon corps qu'il te faudrait, etc., etc. Et ça pousse aussi à des idéologies, qui sont abyssales, hein, parce qu'aujourd'hui on a parfois des jeunes parents qui préfèrent ne pas nommer leur enfant en se disant que il choisira le sexe qu'il veut quand il aura 4 ans ou 5 ans. Ou alors on leur donne des prénoms bisexués qui font qu'en effet s'ouvre à eux l'idée que il choisira, comme si il y a un choix forcé dans la façon dont chacun il y a un choix forcé du fait de l'anatomie, on n'en sort pas. Et on a beau vouloir le nier, l'anatomie, le corps anatomique a un impact sur le psychisme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait reformuler d'une façon que ça puisse être entendable.
Oui, voilà.
Parce qu'aujourd'hui, ça n'est plus entendable. C'est ça.
J'avais une dernière question à vous poser avant de laisser peut-être la salle à son tour poser la question, puisqu'on avait le désir que ce soit une conversation aussi avec le public qu'il y a là aujourd'hui, de Morgane Léger, qui avait comme question la question de l'inhibition de l'enfant. Parfois, dit-elle, au fil de certaines séances, les enfants peuvent déplier ce qui est en souffrance pour eux à travers le récit de jeux, de rêves ou à travers les dessins. Et puis, il y a des enfants ou des adolescents pris dans une inhibition avec lesquels la marge de manœuvre dans la clinique et le travail est plus réduite. Elle évoque un petit garçon qu'elle avait reçu et dans la première rencontre qu'elle fait avec ce petit garçon, il ne pouvait répondre, dit-elle, que par monosyllabes, oui, non, bien qu'il semblait désireux d'être reçu. Mais il était dans l'impossibilité d'articuler quelque chose. Et quelques mois plus tard, quand il a pu évoquer sa sidération devant les conflits parentaux, il a pu dire « Avant, je n'avais pas de mots dans la tête. » Alors, comment dès lors opérer? C'est une question très clinique. Comment dès lors opérer avec un enfant en proie à l'inhibition? Est-ce que c'est une question difficile?
C'est une question très importante,
mais
parce qu'on a affaire à... Certainement,
oui.
On parle beaucoup plus des enfants agités, mais on a aussi affaire à des enfants inhibés.
Mm-hmm.
Simplement, l'inhibition, personne s'y intéresse parce que finalement, on sait tous à peu près ce que c'est. C'est pas assez nouveau pour le. Là, je fais d'ironie. C'est pas assez intéressant pour le cerveau, pour les neurosciences. Non, mais plus sérieusement, l'inhibition, c'est un symptôme très répandu. Voilà, c'est assez répandu. Le sentiment de sa nullité. Le je suis nul,
oui,
qui vous poursuit du début jusqu'à la fin de votre vie, c'est quelque chose qui a des conséquences extrêmement difficiles pour un sujet. Alors, un petit enfant ou un adolescent qui pense qu'il est nul, évidemment, c'est tellement ça bloque tellement. Les mots, comme le dit ce petit garçon,
oui.
Ça bloque tellement l'association, la capacité imaginaire de l'enfant, la capacité à se représenter des scénarios, etc., d'avoir une vie psychique qu'on peut se raconter, etc., que, en effet, ça a un impact sur les apprentissages. C'est-à-dire que, à la place de ces mots qui circulent en nous, en chacun, et dans l'enfant aussi, il y a des mots qui circulent dans sa tête, il y a une forme d'interdit de penser. Et cet interdit de penser finit par épuiser quelque chose de la libido.
Oui, oui.
C'est-à-dire, c'est le désir qui est touché. Ce n'est pas seulement le fait que pour l'enfant, le savoir lui est interdit ou difficile d'accès, ou qui se l'interdit, parce qu'il y a aussi cette version-là de l'inhibition. L'enfant peut s'interdire d'apprendre parce que face à l'apprentissage, face au savoir, eh ben, il s'en fiche tout simplement. Lui, il préfère jouer aux petites voitures ou je sais pas quoi. Il n'a pas envie de grandir, il n'a pas envie d'investir le savoir parce que ça lui fait peur. Et donc, dans une thérapie, oui, il s'agit de ne pas se laisser. C'est très difficile la psychanalyse avec les enfants, parce qu'ils ont une force d'inertie parfois, voilà, qui vaut bien l'agitation. Ils ont une force d'inertie qui peut vous entraîner vous-même dans cette espèce de sentiment qu'on peut rien faire, que le pauvre il est malheureux, mais enfin voilà, il y a pas, on voit pas d'où ça vient. Et voilà. Moi, mon idée, c'est que il faut parler n'importe comment, n'importe quoi, jouer, parler, vivre, profiter, aller dans, même aller se balader. Mais voilà, il faut renouer avec une parole qui lui parle. Alors, c'est ça qui est difficile, c'est une parole qui lui parle. Mais bon, il faut trouver. C'est notre travail de trouver qu'est-ce qui va lui parler.
Merci beaucoup, Hélène Bonneau, pour cette intervention.